Ils étaient curieux à voir vraiment pour les passants cet étranger de petite taille au teint sombre et cet enfant tout blond qui, dans une encoignure de porte, s'entraînait à la génuflexion. Et puis, tu te relèves rapidement, mais ne bouscule pas la reine. L'autel du temple était fort modifié depuis l'époque de Jacques de Molay. Et d'abord, il avait été morcelé. La résidence de la reine Clémence ne comprenait que la grande tour carrée à quatre poivrières, quelques logis secondaires, remises, écuries, autour de la cour pavée, et un jardin, partie potager et partie d'agrément. Le reste de la commanderie, les habitations des chevaliers, les armureries, les chantiers des compagnons isolés par de hauts murs, avaient été affectés à d'autres usages. Et cette cour gigantesque, destinée au rassemblement militaire, paraissait à présent déserte et comme morte. La litière d'apparat à rideaux blancs qui attendait la reine Clémence y semblait un bateau arrivé par mégarde ou détresse dans un port désaffecté. Et bien qu'il y eût autour de la litière quelques écuyers et valets, tout l'hôtel avait un ton de silence et d'abandon. Guccio et Giannino pénétrèrent dans la tour du temple par la porte même d'où Jacques de Molay, extrait de son cachot, était sorti 12 ans plus tôt pour être conduit au supplice. Les salles avaient été remises à neuf, mais en dépit des tapisseries, des beaux objets d'ivoire, d'argent et d'or, ces lourdes voûtes, ces étroites fenêtres, ces murs où les bruits s'étouffaient, et les proportions même de cette résidence guerrière, ne constituaient pas une demeure de femme, d'une femme de 32 ans. Tout y rappelait les hommes rudes, portant le glaive sur la robe, qui avaient un moment assuré à la chrétienté la suprématie totale dans les limites de l'ancien empire romain. Pour une jeune veuve, le temple semblait une prison. Madame Clémence fit peu attendre ses visiteurs. Elle apparut, vêtue déjà pour la cérémonie à laquelle elle se rendait, en robe blanche, gorgière de voile sur la naissance de la poitrine, manteau royal sur les épaules et couronne d'or en tête. Une reine vraiment comme on en voit peinte aux vitraux des églises. Giannino crut que les reines étaient vêtues de cette sorte tous les jours de la vie, belles, blondes, magnifiques, distantes et le regard un peu absent. Clémence de Hongrie offrait un sourire qui n'était que de commande, le sourire qu'une reine sans pouvoir, sans royaume, se doit de laisser tomber sur le peuple qui l'approche. Cette morte sans tombeau trompait ses jours trop longs par des occupations inutiles, collectionnait les pièces d'orfèvrerie, et c'était là tout l'intérêt qui lui restait au monde et qu'elle feignait d'avoir. L'entrevue fut plutôt décevante pour Guccio, qui attendait davantage d'émotion, mais non pour l'enfant qui voyait devant lui une sainte du ciel en manteau d'étoiles. Madame de Hongrie posait ces questions bienséantes qui nourrissent la conversation des souverains lorsqu'ils n'ont rien à dire. Guccio avait beau tenter d'orienter l'entretien vers leur commun souvenir, vers Naples, vers la tempête, la reine éludait. Tout souvenir en vérité lui était pénible. Elle repoussait les souvenirs. Et quand Guccio, cherchant à mettre en valeur Giannino, précisa « Le frère de lait de votre infortuné fils, madame », une expression presque dure passa sur le beau visage de Clémence. Une reine ne pleure pas en public. Mais c'était trop d'inconsciente cruauté vraiment que de lui présenter bien vivant, blond et frais, un enfant de l'âge qu'aurait eu le sien et qui avait sucé le même lait.